Vous êtes sur RTL.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bernard Tapie, l'homme aux mille vies. Et parmi ces mille vies, il y a celle, le combat mené contre la maladie. Et Arnould, bonjour. Vous habitez
bonjour,
Strasbourg.
Pascal.
Et votre épouse, malheureusement, est décédée il y a quelques jours d'un cancer.
Tout à fait, elle avait 49 ans, elle est décédée comme Bernard Tapie d'un cancer métastasé. Et voilà, donc c'est une maladie qu'il faut combattre. Et j'ai admiré la dignité de Bernard Tapie et je pense qu'il a donné beaucoup de force aux personnes qui avaient cette maladie, par sa dignité, par son courage.
Et on va en parler évidemment dans quelques secondes avec vous, je vous remercie d'être là. Amandine le rappel des titres.
Et à la une, le Sud-Est sous les eaux, trafic SNCF interrompu, école fermée, des habitants priés de rester chez eux. Les Bouches-du-Rhône sont toujours en alerte rouge. Il est tombé par endroits, Étienne Baudu, l'équivalent de 2 mois et demi de précipitations.
Oui, ici, dans le quartier de la Barrasse, dans le 11e arrondissement, une vingtaine de maisons ont été impactées par une coulée de boue venue des collines environnantes. Certains habitants ont eu 1 mètre d'eau chez eux et vous l'imaginez, des dégâts relativement importants, même si l'eau s'est retirée assez rapidement. Mais évidemment, avec le ciel qui s'obscurcit à nouveau, la crainte, c'est une nouvelle coulée de boue. Du coup, Yanis est venu chercher ses parents pour les mettre à l'abri.
C'est mes parents, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, les eaux, elles sont montées, et c'est vite monté, ça allait très vite. Il y a de quoi avoir peur un peu, mais bon. Ça va, on va partir de là.
Qu'est-ce que vous allez faire là?
On va amener les parents ailleurs, on va les amener à la maison. De temps que ça passe. Et après voilà, on avait évacué l'eau un peu qu'il y avait dedans. Un premier coup, bon, espérons que cet après-midi, que la météo... Ils se sont trompés.
Par ailleurs, les habitants ont été sensibilisés. Annie a été avertie ce matin par téléphone de rester chez elle cet après-midi. Prévoyante, elle est venue faire ses courses en fin de matinée avant de retourner chez elle au chaud.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL. On rappelle que les écoles sont fermées aussi dans le Var et les Alpes-Maritimes. Et Louis Baudin, grande prudence, vous nous le disiez, parce que ce n'est pas terminé.
Non, ce n'est pas terminé, même si je vois qu'il y a une petite accalmie. Il y a encore des averses sur le Var, mais ailleurs, on a plutôt une petite pause. Mais je vois d'autres pluies orageuses, très fortes, qui remontent de Méditerranée. C'est en train de se réactiver au large du Var, mais également des Bouches-du-Rhône. Et d'ailleurs, c'est l'est des Bouches-du-Rhône, le Var, une partie des Alpes-Maritimes qui sont touchées en cours d'après-midi. Et ensuite, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, donc prudence encore au moins jusqu'à la nuit.
Dans l'actualité aussi, ces hommages à Bernard Tapie qui se poursuivent. Ces obsèques, vous le savez, auront lieu vendredi à Marseille. Avant cela, une messe aura lieu mercredi en l'église Saint-Germain-des-Prés. Ce sera à 11h. Petit coup d'œil à notre météo à présent avec Louis. On va se projeter sur la suite. Oula, je vais y arriver. C'est mieux demain, Louis.
Alors, c'est mieux dans le sud-est. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que petit à petit, près de la Méditerranée, on va retrouver un temps un peu plus calme. Dans les autres régions, c'est l'inverse, avec une nouvelle perturbation qui va traverser toute la France. Alors, c'est en gros une bande de 200 km de nuages, de pluie et de vent fort. Ça commencera par les régions de l'ouest. Ça finira par celle de l'est, avec au passage, donc, cette perturbation des nuages, de la pluie, du vent fort. 80-90 km/h dans le nord et puis les températures à peine de saison, 16 à 19 degrés demain après-midi dans la moitié nord et 19 à 21 dans le sud. Il n'y a qu'en Corse où on dépassera encore les 25 degrés.
En un mot, petit lot de consolation, très beau week-end en perspective,
oui,
c'est
exactement,
ça
exactement, à partir de jeudi, nette amélioration, puis c'est fiable. Tous les modèles sont d'accord depuis hier, donc de jeudi à
c'est
dimanche.
L'été
voir
non,
lundi prochain.
Non, mais
c'est
un bel automne.
On parle de l'été indien, ça y ressemblera un petit peu.
C'est-à-dire 25 degrés?
Non, 20 degrés. Et 10 degrés le matin. Oui, mais sous le soleil, ça sera très agréable.
Ça changera demain ou pas?
Non, à partir de jeudi, pas demain.
Non, mais est-ce que votre prévision va changer demain? C'était ça, parce que ça change.
Elle est fiable. Pascal, elle est
faites
fiable.
Attention.
Ça tombe bien, parce que moi, je ne serai pas à Paris ce week-end, donc j'ai envie de soleil un peu.
Et vous l'aurez.
Merci. Merci beaucoup, Amandine. Merci, Amandine, 13h05.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Sujet grave, bien sûr, sujet grave, parce que Bernard Tapie est mort d'un cancer, vous le savez. Et ce sujet du cancer, on en a parlé avec David Kayat tout à l'heure, qui nous fait l'amitié de rester avec nous. D'ailleurs, monsieur Kayat, merci d'être avec nous pendant le premier quart d'heure de cette émission. Arnould est là. Arnould habite Strasbourg. Son épouse est décédée la semaine dernière d'un cancer métastasé, nous disiez-vous, Arnould. Est-ce qu'on peut savoir de quoi précisément souffrait votre épouse ?
Elle avait le cancer du cardia, elle avait des métastases sur le foie, donc on lui enlevait la totalité de l'estomac et de l'œsophage, et on l'a remplacé avec du côlon, mais la problématique c'était les métastases sur le foie, donc et ça a été très compliqué.
Quand est-ce que ce cancer s'était déclaré ?
la deuxième semaine du premier confinement, au mois de mars de l'année dernière. Donc, et ça a été. Mon épouse fait partie de, malheureusement, des personnes qui ont subi la conséquence du confinement, puisque on n'a malheureusement pas fait les examens peut-être suffisamment tôt, parce qu'on était confinés. Et on a probablement trop tardé, ou en tout cas, elle a probablement trop tardé, ce qui fait que probablement les métastases se sont développées. Et si on avait été dans un contexte plus classique, les examens auraient été faits plus tôt, et peut-être que les métastases n'auraient pas été présentes, mais ça c'est du supposition.
Et quels sont les symptômes qu'elle a eus ?
Elle ne pouvait plus du tout manger. Au deuxième semaine de confinement, elle mangeait un demi-yaourt par jour, donc impossibilité de manger. Voilà.
David Kayat qui vous écoute. On est exactement dans ce que vous décriviez il y a quelques minutes, monsieur Kayat, c'est-à-dire ce que vous appelez les parties molles du corps et notamment qui sont dans le ventre. Vous disiez le foie, la vésicule. Lorsqu'un cancer est diagnostiqué, parfois il est trop tard. Et ce qui est tout à fait sidérant dans ce que rapporte Arnould, c'est que ce cancer est connu en mars 2020, et donc 18 mois plus tard, l'épouse d'Arnould, hélas, est décédée.
Oui, alors là, pour donner quelques explications à vos auditeurs, le cancer de l'œsophage, le cardien, c'est la dernière partie de l'œsophage, juste avant sa jonction avec l'estomac. La tumeur se développe à l'intérieur de ce tuyau, elle finit par obstruer le tuyau et le malade n'arrive plus à avaler. Alors au début, il a une gêne quand il mange du pain ou de la viande et petit à petit, même les légumes, tout ça passe pas. Il est obligé de manger liquide, le yaourt en question. Et c'est ça les signes, mais ce sont des signes, comme vous le comprenez, qui sont tardifs. Ça veut dire que la tumeur, elle a assez grossi dans l'œsophage, dans le cardien, pour boucher pratiquement le tuyau. Donc on est dans des signes tardifs. Il n'y a pas de dépistage là, on ne peut pas faire des fibroscopies à tout le monde tous les ans pour regarder s'il y a quelque chose d'anormal dans l'œsophage ou dans l'estomac. Là, on est sur 18 mois de survie, ce qui dans une forme avec métastase dans le foie est à peu près, grosso modo, hein, c'est des moyennes, il y a des gens qui vivent plus comme Tapie et des gens qui vivent moins, mais on est dans à peu près la moyenne malheureusement, parce que je peux vous dire, on se bat tous les cancérologues du monde, vous avez parlé avec Eric Van Kutsen qui est un de mes meilleurs amis ce matin, nous nous battons sur ces cancers digestifs tous ensemble, en partageant les informations, tout le monde est très mobilisé pour essayer d'améliorer. Mais enfin, ça reste quand même, ça reste du fait du diagnostic tardif, ça reste des cancers qui sont difficilement...
Ah, la liaison a été coupée. On va marquer une première pause dans cette émission des auditeurs en la parole et puis on va retrouver le docteur Kayat. Et je remercie Arnould de son témoignage. Il va rester également avec nous. Et c'est vrai, j'imagine qu'Arnould, votre prise de parole dans ces moments précis est compliquée et rude pour vous.
Question à poser à monsieur Kayat s'il est encore là tout à l'heure. Donc
à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'homme aux mille vies, éternel battant, une saga lui tout seul. Bernard Tapie nous a quitté hier à l'âge de 78 ans. Vous pouvez lui rendre hommage tout au long de l'émission. Homme d'affaires, ministre, acteur, mais aussi chanteur.
J'aurais voulu être un artiste.
Et bien sûr, patron de presse, dirigeant de club, quel souvenir garderez-vous de Bernard Tapie ? Son ami depuis 45 ans, Jean-Louis Borloo, était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
Boule d'amour, boule d'amitié, chaleur, pudeur. Je sais que c'est un des hommes les plus pudiques que j'ai rencontrés. Il cachait ses sentiments. C'est qu'il avait toujours une croix dans sa veste.
Que représentait Bernard Tapie pour vous ? 3210, 3210.
Monsieur Kayat, qui est cancérologue, est resté avec nous, et Arnould... qui a, hélas, éprouvé un deuil puisque son épouse est décédée d'un cancer ces derniers jours, souhaitait interroger M. Kayat. C'est à vous, Arnould.
Oui, merci. M. Kayat, en fait, mon épouse était jumelle. Et malheureusement, elle a perdu sa jumelle il y a 2 ans et demi d'un cancer métastasé. Est-ce que vous ne pensez pas...
Quel type de cancer ?
Cancer des poumons. Cancer des poumons métastasé. Elle fumait tout à fait, et elle avait des métastases aussi sur les os. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on est des jumeaux, par exemple, et qu'il y a eu un cas de cancer métastasé pour une ou des jumelles ou un des jumeaux, il ne serait pas intéressant de faire de la prévention et de suivre le jumeau ou la jumelle qui reste en vie? Parce que peut-être que génétiquement, il y a des prédispositions à développer des cancers métastasés.
Vous avez absolument raison. C'est dans des cas comme celui-là. Bon, le cancer du poumon qu'elle a eu, c'est quand même très vraisemble la sœur, très vraisemblablement liée au tabagisme. Hein, bien évidemment, c'est une catastrophe le tabagisme. Mais quand même, il y a une fragilité. Il y a que 8% des fumeurs qui développent un cancer du poumon, ce qui veut dire qu'il y a une fragilité chez la sœur, et donc cette fragilité, elle peut avoir effectivement un environnement génétique. Et moi, j'aurais été amené à suivre la sœur. J'aurais probablement dû, surtout que sa sœur jumelle se fasse voir très régulièrement.
David Kayat, Bernard Tapie ne buvait pas, il ne fumait pas, il avait une vie plutôt saine, avec beaucoup de stress, certes, mais beaucoup une vie où il n'était pas, il n'y avait pas de facteur de risque, et malgré cela, il a développé un cancer de l'estomac. Est-ce qu'on sait pourquoi on développe un cancer de l'estomac ?
Oui, on sait, parce que les cancers de l'estomac, bien sûr, il y a des facteurs favorisants comme le tabac, l'alcool, les produits, manger trop salé, manger trop de produits transformés. Mais quand même, la plupart des cancers de l'estomac sont liés à une bactérie. Ça paraît étrange, hein, mais une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. C'est cette bactérie qui, en fait, donne les ulcères. Et c'est cette bactérie qui donne également, dans beaucoup de cas, les cancers de l'estomac, de toute cette région-là. Hein.
Comment elle entre, cette bactérie, dans le corps ?
Elle rentre par l'eau, elle est très, très ubiquitaire, elle est un peu partout. Et en fait, quand on fait une fibroscopie, qu'on regarde l'intérieur de l'œsophage et de l'estomac, on fait tout le temps des petites biopsies pour vérifier s'il y a de l'Helicobacter pylori, de HP, comme on dit. Mmh. Et si c'est ça, on donne un traitement pendant 15 jours pour le tuer, ce microbe, pour éviter qu'il continue d'entraîner son effet cancérigène.
Mais est-ce que vous croyez à la thèse de la bile, comme on disait jadis, qu'on puisse se faire? Et Bernard Tapie l'avait dit d'ailleurs.
Bien sûr. Moi, je pense que son histoire, dans laquelle je n'ai pas d'avis, mais qu'au plan médical, j'ai fait un livre il y a 2 ans sur les liens entre le stress et le cancer, c'est clair, hein, que pour moi en tout cas, et puis pour beaucoup de cancérologues qui ont un peu d'expérience, c'est très difficile de le prouver scientifiquement, mais il y a un lien entre le stress énorme dont on ne s'en sort pas, où tous les jours on se dit qu'on ne va pas y arriver, ou alors le chagrin qu'on n'arrive pas à partager, etc., et le développement d'un cancer. Très très souvent, dans les 2 ans, 3 ans, alors après ça dépend de la personnalité.
Et on peut tous le constater d'ailleurs dans nos entourages, et on ne sait pas si c'est... le hasard ou pas, mais chacun peut constater que derrière un deuil, une maladie, un stress, un cancer est apparu. Dernière chose, Monsieur Kayat, vous avez parlé d'Eric Van Cutsem tout à l'heure.
Oui,
Bernard Tapie était suivi par Monsieur Van Cutsem. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles ou des traitements en Belgique qui ne sont pas utilisés en France ?
Non, c'est pas exactement ça. C'est un de mes meilleurs amis, on travaille ensemble depuis plus de 30 ans, et Eric concentre les essais de toutes les nouvelles molécules sur les cancers digestifs, depuis l'œsophage jusqu'au rectum, et y compris le pancréas. Donc dès qu'une start-up, dès qu'un laboratoire a un nouveau médicament à l'essai, il faut savoir que plus de 9 fois sur 10, ces médicaments ne donnent rien. Donc les malades sont un peu des cobayes, quand même, quelque part. Mais ce sont des façons d'aller chercher un peu d'espoir là où il n'y en a plus. Mais ces médicaments à tester, on les donne à des experts, ceux que j'étais tant que j'étais à la Salpêtrière, ceux qu'Eric Van Cutsem est toujours à Leuven, en Belgique. Et donc, quand vous allez dans ces centres-là, vous avez le traitement standard, celui que vous pouvez avoir à peu près partout. Mais quand ça ne marche plus, vous pouvez accéder à des essais thérapeutiques, c'est-à-dire à des médicaments expérimentaux. C'est ça qu'a fait Tapie avec Van Cutsem.
D'accord. Quand c'est le médicament de la dernière chance. C'est quand, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de risque à tenter ça parce que les autres ne marchent plus. Nous sommes d'accord.
De toute façon, il n'y a pas de risque parce que sinon, c'est la fin. Donc, il vaut mieux tenter une dernière chance. Des fois, ça marche. Moi, dans mes 40 ans d'expérience, j'ai vu des nouveaux médicaments qui étaient expérimentaux et qui ont bouleversé le pronostic de certains malades. Donc il faut tenter sa chance avec les essais, il faut arrêter de se dire « moi je veux pas un truc expérimental ». Quand plus rien ne marche, il faut aller chercher l'espoir, c'est ça l'énergie dont parle Tapie. Il faut oser aller chercher l'espoir là où il est peut-être caché, même si c'est pas sûr du tout.
Merci David Kayat, merci. Ce serait passionnant de vous écouter jusqu'à 14h30 parce qu'on a tellement de questions à vous poser sur cette maladie. On va marquer une nouvelle pause et puis on va continuer de parler de Bernard Tapie. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je voulais remercier Arnoul qui a été notre premier auditeur. Je vois qu'il est parti et je le remercie grandement de son témoignage et lui souhaite évidemment tous les courages possibles. Laurent Tessier.
Réussir sa vie, c'est traverser un océan.
Vous savez qui a écrit cette chanson ?
Didier Barbelivien ?
Parole et musique.
Ça.
En fait, il a tout écrit, Barbe-Olivien. À chaque fois, t'es étonné, tu dis encore Barbe-Olivien, réussir sa vie. 1986,
Bernard Tapie nous a quitté hier à l'âge de 78 ans et vous l'avez dit, il était devenu l'un des symboles de la lutte contre le cancer. Il souffrait de cette maladie depuis 2017, très affaibli mais toujours combatif. Il en avait parlé chez nos confrères de France 2.
La méthode Coué, ça consisterait à dire « moi j'ai le moral, j'ai la pêche, etc. » Ça, ça marche pas. Il y a une seule chose qui marche. Une seule, c'est l'énergie. Parce que c'est l'énergie qui donne à vos défenses le moyen de combattre cette saloperie. Et c'est un vrai combat, c'est un truc à mort. Moi, je le traite de tous les noms, mon cancer. Je me lève le matin avec envie de lui péter la gueule.
Vous êtes-vous reconnu dans la bataille que menait Bernard Tapie ? Ses paroles contre le cancer vous ont-elles aidé aussi en tant que proche de malade ? Bernard Tapie parlait du courage sur TF1.
Il faut que chacun trouve le mobile de son combat. Celui qui est universel, c'est d'arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Parce qu'eux aussi souffrent. Vous comprenez ? Alors, moi, je crois qu'on n'a pas on n'a pas à se vanter de trouver le courage. On a à avoir honte de ne pas l'avoir. Et il faut l'avoir. Il est à la portée de tout le monde.
Et vous pouvez continuer de rendre hommage à Bernard Tapie, 3210, 3210.
Sarah est avec nous, elle habite Avignon. Bonjour Sarah.
Oui, bonjour Pascal.
Quels souvenirs vous garderez de Bernard Tapie ?
Deux, précisément, enfin plein, mais deux plus précisément. Le premier étant évidemment fan de foot, la Ligue des Champions en 93 avec Marseille, inoubliable, indescriptible, la joie.
Et là, vous étiez toute jeune.
Oui, tout à fait. Mais je m'en souviens parce que je suis fan de foot depuis toute petite puisque j'ai un. Parce que
vous aviez 7 ans, si je compte bien.
Oui. Tout à fait, mais j'ai un frère aîné qui... Enfin, j'ai baigné dans le foot depuis toute petite.
Vous étiez dans votre poste jusqu'à 23h à 7 ans.
Ouais, mais pour une Ligue des Champions, on reste devant le poste.
Exactement. Vous habitiez où à l'époque ? Avignon ?
À côté, ouais, à Orange. Oui.
Donc vous étiez effectivement sudiste.
Exact. Mais c'était inoubliable. Ça, c'est la première chose. Et merci encore de nous l'avoir amené. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est... On n'en a pas beaucoup... Enfin, hier, j'ai évidemment regardé la télé, je pense, comme beaucoup de personnes, qui retraçaient sa vie. Et c'est la fois où il est descendu, je ne sais plus dans quelle médecine, dans le sud de la France, où il est allé seul parmi des partisans du Front National. Et qui leur a dit ce qu'ils aimaient entendre. Il a été applaudi et puis à la fin il leur a sorti une phrase mémorable du style, hein, je sais plus les mots exacts, mais demain matin quand vous vous regarderez, quand vous vous raserez, vous pouvez vous gerber dessus. Un courage énorme, il fallait y aller. Hein. Il aurait pu se faire lyncher, il aurait pu avoir des problèmes, voilà. C'est vraiment le tempérament exceptionnel de ce monsieur que je garderai. Moi, il m'a fait rêver, hein, clairement. C'est un peu une réussite à l'américaine. C'est-à-dire que bon, voilà, on part de rien et on arrive à une ascension fulgurante. Et voilà, malgré les déboires qu'il a eu après, je garde vraiment ça en tête. Hein. Et c'est vrai qu'hier, j'ai de nouveau regardé les interviews, notamment avec Laurent Delahousse, sur la 2, qui m'ont beaucoup touchée, notamment une phrase que je ne connaissais pas et qui va me rester vraiment en tête très longtemps. Il a dit, si on aime, il ne faut pas avoir peur de la mort, Parce que sinon toute sa vie on quelque chose comme ça hein, toute sa vie on aura peur de on aura peur de vivre sa vie en fait tout simplement.
Non mais la mort chacun évidemment la vit différemment généralement oui. Ce dont on a peur c'est d'être affaibli, d'être diminué, d'avoir mal, d'avoir la douleur, c'est ça qui fait peur, c'est-à-dire que Bernard Tapie le conquérant, le battant, le guerrier qu'il était, il succombe vraiment à une maladie qui est horrible, qui est horrible dans ses derniers jours, dans sa finalité, qui vous réduit vraiment dans tous les sens du terme. C'est ça dont parfois on a plus peur encore que la mort. Quand vous posez la question aux gens « Comment aimeriez-vous mourir ?» à 95%, ils répondent dans mon lit en train de dormir. Voilà, sans souffrir, c'est ce que répondent les gens. Quitte à mourir, au moins qu'on s'en rende pas forcément compte. Mais cette mort-là, cette chronique d'une mort annoncée parfois, qui est cette maladie, peut faire peur, Sarah.
Oui, clairement, clairement. Je le conçois tout à fait, mais je trouvais que dans, entre guillemets, dans sa bouche, ça avait un retentissement autre, beaucoup plus fort. Surtout qu'en plus, il était en pleine phase de traitement.
Bien sûr.
Et quel courage. Et une dernière chose, Pascal, je me permettrai une petite remarque. J'ai été, alors c'est mon avis, hein. Je sais qu'on a la liberté d'expression en France, et c'est tant mieux. Mais j'ai regardé hier toute la journée les hommages, etc., de certains. Et j'avoue que j'ai été assez choquée, notamment par celui d'Éric Zemmour, qui indiquait que quel homme, grand respect pour lui. Je ne sais pas comment il a fait pour ne serait-ce écrire quelques mots sur cet homme qui était à l'opposé de lui. J'ai trouvé ça assez déplacé, en fait.
Ce que vous dites est juste. Tapie, c'est l'anti-Zemmour.
Et
que peut-être dans ces cas-là, Zemmour aurait-il mieux fait de ne rien dire, parce que je peux partager votre avis que Tapie n'aurait pas voulu cet hommage-là.
Exactement. On se rejoint tout à fait, Pascal. J'ai trouvé ça.
Mais Jean-Marie Le Pen également a réagi. Exactement. Et ça m'a étonné de la même manière. Peut-être qu'à un moment, quand tu as été ennemi dans la vie, je ne vais pas dire que tu dois rester ennemi dans la mort, mais peut-être la décence t'interdit de dire le moindre mot.
Exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment choqué. J'avoue, j'étais un peu scotché.
Sarah, je vous propose d'écouter Bernard Tapie sur sa maladie.
C'est l'épisode ultime de la vie. Voilà, celui qui a peur de la mort, il a peur de la vie, tout parce que toute sa vie, il a pas à avoir peur du moment où il va la perdre.
C'est le mot, les paroles que vous aviez entendues qui vous avaient frappé.
C'est tellement juste, hein. Ouais. C'est tellement bien dit.
Alors, c'est homme, plus d'ailleurs vraiment. Sur la mort que sur la maladie, pour être précis.
C'est ça, c'est pour ça que je disais, voilà. Et je trouvais ça très juste, et cette phrase... On devrait vraiment tous l'avoir en tête.
Mais Sarah, vous avez 35 ans, la mort n'existe pas lorsqu'on a 35 ans. C'est une abstraction. Elle n'est pas présente près de vous.
Oui, on l'a toujours en tête. Hein. On l'a toujours en tête. On n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est pas à l'abri d'une maladie, malheureusement. Voilà, on a tous perdu des êtres chers, jeunes ou moins jeunes. Donc évidemment, elle est quand même là. Il faut être conscient. Alors,
mais
on a,
c'est
on
vrai
n'est pas des
que
enfants, hein.
À partir d'un certain âge, elle est peut-être plus présente. Et lorsqu'on a dépassé 75, 80 ans, forcément, c'est plus présent que lorsqu'on en a 35.
Clairement, mais c'est une question de caractère et de la façon dont on voit la vie aussi. Pascal.
C'est vrai. C'est vrai. C'est la première vie sur Terre que vous avez, Sarah, ou vous avez été réincarnée peut-être dans une autre vie, est-ce que vous savez? On ne sait pas. Allez, on marque une pause et je vous repose la question après. Apportons un peu de légèreté. Et on va demander à Damien Béchiot également si dans une autre vie, il était, je ne sais pas, ou fourmi, ou... Ou fourmi. Cheval, ou...
Fourmi, donc.
Ou femme.
Ah, peut-être, on ne sait pas.
On ne sait pas. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
L'homme qui osait tout, un roman français à jamais le boss. Que représentait Bernard Tapie pour vous? Bien, pour tous les supporters marseillais, forcément. Le 26 mai 1993 à Munich, l'OM remporte la Ligue des Champions en battant le Milan AC.
C'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on va pas faire semblant. C'est génial.
L'émotion de Bernard Tapie, et pour vous, quelle serait la meilleure façon de lui rendre hommage? Certains supporters aimeraient rebaptiser le stade Vélodrome à son nom. Qu'en pensez-vous? 3210, 3210.
Sarah, donc, c'est votre première vie? Sarah?
Oui, c'est ma première. Je vous confirme, c'est ma première.
Bon, bah écoutez.
Par contre, plus... Pascal, je trouve que le nom de Bernard Tapie associé au Vélodrome pour y être allé, je trouve que c'est une excellente idée.
Mais oui, mais pour tout vous dire, j'en suis pas certain, parce que les Marseillais diront toujours le Vélodrome, et le Vélodrome... C'est tellement historique que je ne suis pas sûr que ce serait même un service à rendre à Bernard Tapie, parce que je ne suis pas sûr que les Marseillais diraient « je vais au stade Bernard Tapie ». Le Vélodrome est tellement ancré dans l'histoire marseillaise que peut-être faut-il trouver une autre manière de rendre hommage à Bernard Tapie à Marseille.
Peut-être l'associer, Vélodrome, Bernard Tapie, peut-être, quelque chose comme ça. Ça pourrait...
Pourquoi pas. Merci en tout cas.
Merci.
Nous sommes avec Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Pascal.
Vous aviez un rapport, un contact régulier avec Bernard Tapie.
Enfin, un contact régulier, on va dire que je le croisais très très souvent, puisque moi j'habitais Comble-la-Ville, là où il avait sa résidence secondaire.
Là où il a été agressé une nuit.
Voilà.
Et je crois qu'il n'est jamais retourné depuis qu'il a été agressé, parce que Dominique Tapie ne souhaite plus y retourner.
Je n'y habite plus à Comble-la-Ville, donc je peux pas vous dire, mais j'ai encore des amis qui y habitent et on en a parlé, effectivement, ils ne le croisent plus comme ils le croisaient. Parce que moi, j'ai croisé, comme je vous ai dit, j'habitais donc Comble-la-Ville très très longtemps et j'allais souvent sur le marché samedi matin et je croisais régulièrement Bernard Tapie avec Dominique, son épouse, et je n'ai jamais osé l'aborder. C'est un grand regret que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, c'est un grand regret parce que j'aurais bien voulu qu'il me parle, parce que c'est un homme, moi j'ai tendance à couper la parole aux gens, et je crois que Bernard Tapie c'est un homme que j'avais, ou même certainement d'autres personnes, on avait plaisir à l'écouter quand il parlait, que ce soit de n'importe quel sujet. Moi j'ai encore écouté hier soir, on en a fait référence tout à l'heure à l'interview que Laurent Delahousse avait fait sur lui. Moi je l'ai écouté encore et encore et encore, et j'ai trouvé, mais qu'est-ce qu'il parle bien cet homme, parce qu'en plus c'est un langage qui est à la portée de tout le monde. Il peut avoir des mots grossiers, mais qui sont dans sa bouche, qui ne sont pas grossiers, qui sont, je vais dire, tout à fait à l'image du personnage.
Qui sont populaires.
Qui sont populaires, voilà. Et à l'image du personnage aussi. Donc c'était pas grossier, c'était pas. Et puis alors il pouvait discuter de tout et avec tout le monde. Il avait une audace. Et il aurait pu très bien parler avec le président de la République avec justement ces mots populaires sans aucun, aucune retenue. Il aurait même pu, je suis même certain, qu'il tutoyait très très facilement. Ça, j'en suis persuadé.
Je vous le confirme.
Oui, et puis je pense que vous l'avez très bien vous-même, très bien connu, je crois, il me semble bien.
Très bien connu, j'avais un rapport de journaliste avec lui, un rapport, je dirais, amical. Faut se méfier du mot amitié, faut le laisser pour des rencontres peut-être plus intimes. Mais c'est vrai qu'il y avait un contact qui s'était lié à travers les années. En plus, le temps est important dans ces cas-là, lorsqu'on se connaît depuis... Vous savez, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1989. Je venais d'entrer à TF1 et un après-midi à 16h, on nous dit « va faire une interview de Tapie pour le 20h du soir ». C'était une interview, mais je faisais pas le sujet. J'allais juste faire une interview qui allait se placer dans un sujet que faisait un autre journaliste, parce que j'étais très jeune et je ne faisais pas ce type de sujet à l'époque autour de Bernard Tapie. Donc on m'envoie à Nude Friedland avec une équipe complète. À l'époque, il y avait un caméraman, il y avait un preneur de son et un éclairagiste à Nude Friedland où étaient ses bureaux, et j'étais un peu impressionné parce que Bernard Tapie en 89, c'est une immense star et moi j'ai 25 ans et franchement j'en mène pas large. Et nous sonnons, c'est lui qui ouvre, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'était ses bureaux de l'avenue Friedland, c'est lui qui ouvre, il serre la main du caméraman, il serre la main de l'éclairagiste, il serre la main du preneur de son et il me regarde, c'est la première fois qu'il me voit et en plus il avait un lien avec TF1 parce qu'il était à l'origine du rachat de TF1, il me regarde droit dans les yeux et il me dit... Il est prêt au berceau maintenant à TF1. Je vous jure que c'est vrai. Je n'invente pas. Je vous jure que c'est vrai. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Il les prenne au berceau maintenant à TF1. Parce que j'étais tout jeune, je me souviens plus de l'interview, comment ça s'était passé pour tout vous dire.
suis pas été... Moi, la dernière fois que je l'ai vu à Combs-la-Ville, c'était un petit peu avant Noël, dans un magasin de surgelés, dans une grande chaîne de magasins surgelés qui sont près de la gare. Et je sortais et il rentrait juste à ce moment-là. Et je vous jure, je vous assure, Pascal, j'ai eu, mais alors... Je l'ai reconnu parce que bon, il voilà, c'est Bernard Tapie, mais les cheveux gris, vieillis, j'ai eu un coup, mais j'ai eu du mal à m'en remettre.
Oui, mais je trouve qu'il était même beau dans cet âge-là, avec ses cheveux blancs, avec quelques kilos en moins, il y avait quelque chose de beau sur son visage et de, me semble-t-il en tout cas, d'élégant, je dirais.
Mais mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu échanger deux ou trois mots avec lui. Simplement un bonjour, simplement.
Bah merci, merci de ce témoignage, Didier. Merci beaucoup. Et nous allons poursuivre. Vous pouvez intervenir sur tous les sujets du jour. Ils sont multiples lorsqu'ils concernent Tapie. Tapie l'homme de théâtre, Tapie le chef d'entreprise, Tapie le sportif, Tapie l'homme politique, Tapie le punchline aussi. De temps en temps, pour l'avoir interrogé, c'était pas facile. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et ça me fait très plaisir parce que Cyprien Sini vient d'entrer dans ce bureau. Et Cyprien, évidemment, a un rapport particulier avec Bernard Tapie puisqu'il était enfant en 1993. Vous aviez quel âge le soir de 93
dans 12 ans, Pascal.
12 ans. Bon. Et vous êtes un Marseillais pur sucre.
Pur sucre.
Vous alliez à tous les matchs au stade Vélodrome.
Absolument, avec mon grand-père, puis avec mon père, et puis tout seul.
Donc Bernard Tapie, c'était votre dieu, comme tous les...
Non mais... Pour les enfants. Être enfant à Marseille dans les années 90, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que déjà, il y avait une politique pour aller au stade, les enfants ne payaient pas. Quand vous étiez accompagné d'un adulte, vous ne payiez pas. Donc on allait au stade tous les samedis, c'était extraordinaire. Et on voyait cette équipe flamboyante, ce stade, cette ambiance. Et ça, on le devait à Bernard Tapie. Et on en était tous conscients, il était omniprésent. Et il nous a apporté un espèce de bonheur. Vous savez, le bonheur quand on est enfant, c'est un truc extraordinaire. C'est un truc qu'on n'oublie jamais et qui vous reste tout au long de la vie.
Laurent Tessier.
Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant.
Magnifique reprise de Comme d'habitude. Et ce qu'on leur tiendra aussi de Bernard Tapie, ce sont ses coups de gueule, sa capacité à débattre avec n'importe qui. Un débat, forcément, est resté dans les annales, celui face à Jean-Marie Le Pen en 1989 sur TF1.
Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur.
C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que
vous
arrivez.
Poli, mais je peux pas être poli avec vous. Vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, vous êtes poli.
Oui.
Vous avez dû apprendre à parler.
La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi.
Quel souvenir garderez-vous de Bernard Tapie? 32-10, 3-2-1-0.
Cyprien va rester avec nous, mais c'est les auditeurs qui parlent. Et c'est Grégory qui est avec nous, qui est supporter du Paris Saint-Germain. Donc Grégory, évidemment, être supporter du PSG, c'est compliqué avec l'Olympique de Marseille. Mais c'est tellement compliqué qu'on ne l'entend pas d'ailleurs, Grégory. Grégory, vous êtes là.
Oui.
Bah oui, je comprends. Je me disais que vous n'aviez plus de voix.
Non, ouais, je suis bien là.
Bon, vous êtes supporter du PSG.
Oui, tout à fait, oui, supporter du Paris Saint-Germain. Et grand supporter du Paris Saint-Germain. Bon, voilà, Marseille, c'est le rival. Hein. Mais, toujours respect, hein, beaucoup de respect, même encore maintenant, bien sûr. Et puis, alors avec Bernard Tapie, c'était, quand Bernard Tapie était président de l'Olympique de Marseille, c'était la classe, parce que j'ai partie de ces présidents de classe, un peu au même titre que le grand président Rocher des Grands Verts de Saint-Etienne, Claude Bèze à Bordeaux. Parce qu'il faut savoir que le grand rival de Marseille, c'est plus Bordeaux que Paris. Hein. C'est devenu justement avec Tapie, c'était de la com.
C'était Bordeaux, c'était Nantes au départ, c'était Monaco. Oui. Moins dans cette période-là.
Ah non, avant.
Ah oui, non, mais dans la période Tapie, entre 86 et 93,
Bordeaux,
Saint-Etienne n'existe plus. Plus, je ne sais même pas si Saint-Etienne n'est pas en Ligue 2. Et Nantes.
Et Toulon. Ah non, Toulon, parce que les derbys avec Toulon, c'était la guerre. Ah non, mais les derbys avec Toulon, c'était la guerre.
Bon, terminé, Grégory. Toulon, je veux bien que Toulon soit supporter de Marseille.
À l'époque, c'était la guerre.
Oui. Il y avait c'était une fois.
Et donc, moi, ce que je me souviens, c'est que c'était vraiment. C'était vraiment la classe. Il fait partie des présidents de classe. Oui. Donc, et puis nous aussi, on a eu un président de classe dans les années 90, le grand PSG des années 90, Canal+, Denisot, Michel Denisot.
Bernard Tapie qui était en face, c'était vraiment, il y avait de la valeur. Les PSGOM avant c'était de la valeur, c'était quelque chose. Aujourd'hui c'est un petit peu moins intense et c'est plus ce que c'était les PSGOM. Mais et Bernard Tapie, mais vraiment grand respect ce qu'il a fait à Marseille, même si je suis parisien, hein, pourtant je suis pour le PSG, mais quand même il faut reconnaître. Marseille en 86, c'était quand même à la ruine, c'était presque un petit club terminé. Bernard Tapie, il arrive, il rachète Marseille, il fait quelque chose de grand, il a bâti une grande équipe. Bon, c'est sûr qu'il avait beaucoup d'argent pour le faire, mais il a même failli avoir des génies, parce qu'il a failli avoir Platini, il a failli avoir Maradona.
Platini, bon, non, parce qu'il avait arrêté Platini en 87. En revanche, Maradona, oui, en 89, moi je suis resté un mois à Marseille en attendant Maradona qui n'est jamais venu.
Parce que je sais qu'il y avait une interview de Michel Platini comme quoi que pour la fin de sa carrière, Bernard Tapie l'avait contacté. Hein. C'était Michel Platini qui avait dit ça.
Il a arrêté
dans l'histoire.
Voilà, il avait arrêté en 87 Platini avec la Juve. Donc il est de 55, Michel Platini, il arrête à 32 ans.
Mais en fait, ce qui est important Cyprien aussi pour comprendre l'influence de Tapie à Marseille, c'est l'influence de l'OM à Marseille. C'est-à-dire l'OM se confond avec Marseille. Donc quand vous êtes président de l'OM, vous êtes omnipotent à Marseille à cette époque-là. Defer disait d'ailleurs, je suis président de l'OM, je suis maire de l'OM, je suis pas maire de Marseille. Donc en fait, les deux se confondent tellement qu'au bout d'un moment, bah, quand vous êtes le président de l'OM, que vous gagnez tout et que vous arrivez à redorer le blason de la ville, eh ben tout fonctionne, quoi.
Cyprien Sini, je peux. Alors Jean-Alphonse Richard nous a rejoint également.
Non, je recoupe ce que dit Cyprien, évidemment, mais il faut pas oublier que c'est la femme de Defer, Edmond Charleroi, qui va le chercher. Tapie, elle va le chercher comme le Messi.
C'était un dîner à l'ambassade commune.
Exactement.
À l'ambassade de Russie.
Sauver l'OM.
Un dîner à l'ambassade de Russie à Paris, organisé par Mikhail Gorbatchev, qui veut rendre hommage à Mitterrand. Tapie se retrouve à ce dîner, assis à côté d'Edmond Charleroi, qui lui dit « Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour venir racheter l'OM ?» Et c'est comme ça que le présentateur de faire, et c'est comme ça que ça se fait.
Cyprien Sini, j'adore quand vous parlez de Marseille. Vous disiez, alors, les enfants entraient. Alors, vous n'alliez pas forcément avec votre père ou votre grand-père certains samedis, et vous trouviez quelqu'un qui vous faisait rentrer.
Oui, alors, en général, c'était toujours le père d'un copain ou quoi que ce soit, mais il y avait plein d'enfants devant le stade. Et en fait, ils demandaient aux adultes « Est-ce que je peux rentrer avec vous ? Est-ce que je peux rentrer avec vous ?» Et en fait, on rentrait comme ça au stade. C'était légal. Bon, adulte pouvait emmener 2 à 3 enfants avec lui en tribune. Et on allait voir tous les matchs comme ça.
C'est vraiment une période
merveilleuse. Alors maintenant, il faut payer 150€ pour emmener le petit au PSG.
Non.
Mais ça coûte hors de prix, les places au Parc des Princes.
C'est vrai, Grégory, vous êtes abonné, vous, au Parc des Princes ?
Non, je ne suis pas abonné. Ça fait 20 ans que la première fois que j'ai été au Parc des Princes, c'était il y a 20 ans.
Et je précise que c'est pas moi qui emmène mon fils au Parc des Princes. Hein.
Non.
La religion marseillaise me l'interdit.
Bon, on marque une pause.
Mes meilleurs souvenirs de football, c'était justement le PSG des années 90, où à l'époque, j'allais pas au Parc des Princes, parce que moi, c'est à partir de 2001 que j'ai été au Parc des Princes. Et mon plus grand souvenir de football, c'est quand Paris gagne la Coupe d'Europe en 96, et c'était devant ma télé. Il y avait Pascal Praud en bas du terrain, il y avait Thierry Roland, Jean-Michel Marquet.
C'est la Coupe des Coupes. C'est pas la Coupe aux grandes oreilles. La Coupe d'Europe, la vraie, c'est quand même Marseille à jamais les premiers. Mais c'est comme ça. 13h49, on marque une pause. Jean-Alphonse, vous l'avez entendu également, il vient tous les jours à 13h55. Il a suivi également Bernard Tapie, parce que vous étiez au Figaro.
Je me suis beaucoup engueulé avec lui,
oui,
comme beaucoup de journalistes, mais j'ai beaucoup de respect pour le personnage, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas de revanche, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de rester là-dessus, et on arrivait finalement toujours à se reparler, quoi qu'il en soit.
Vous avez raison, il n'y a pas de passion triste chez Tapie.
Bah vous avez eu quelques embrouilles avec lui.
Oui, mais bon, il n'y a pas de passion triste. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de jalousie. Ça, c'est agréable, des gens qui n'ont pas de passion triste. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Bernard Tapie, bien sûr, est à l'affiche des auditeurs ont la parole. Jean-Louis, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Vous habitez dans l'Essonne. Vous souhaitez lui rendre hommage, peut-être ?
Oui, c'est ça. Moi, je voulais parler de l'homme d'entreprise qu'il était. Je travaillais chez Testu dans les années 80. Entreprise qui était un fleuron de la balance en France, et donc cette entreprise a trop vécu sur ses acquis et a déposé le bilan en 83, alors que j'étais jeune commercial. À l'époque, on nous a annoncé que c'était Bernard Tapie qui allait reprendre l'entreprise, alors qu'on s'attendait à être pris par un concurrent. Et donc, en 83, on nous a annoncé que c'était Bernard Tapie le repreneur. Et à l'époque, Bernard Tapie, 83, ben, personne ne connaissait. Il avait dû déjà reprendre une ou deux entreprises, pas plus. Et donc, l'anecdote que j'ai avec lui, c'est que un jour, il a convoqué tout le service commercial de l'entreprise dans son bureau à Nutrier-de-Landre. Et quand on est arrivé à Nutrier-de-Landre, c'est lui qui a ouvert la porte de son bureau. Il nous a laissé rentrer les uns après les autres. Donc, on était à peu près une vingtaine. Il a fermé la porte. Il est allé s'asseoir à son bureau. Il nous a regardé droit dans les yeux. Ça a duré un long moment. Et il nous a dit, mais autant de monde pour faire si peu de chiffre d'affaires. Donc on a pris une claque monumentale ce jour-là et une demi-heure après, pendant une demi-heure après, il nous a pilonné. Et 15 jours plus tard, il nous a reconvoqués à Nutrier-de-Landre, donc les mêmes. Et on s'est dit, bah, on va prendre une deuxième, passez-moi l'expression, branlée. Et en fait, il nous a fait le même scouille, c'est-à-dire qu'il a ouvert la porte de son bureau, il nous a tous laissé rentrer les uns après les autres, il a fermé la porte de son bureau, il est allé s'asseoir à son bureau, il nous a regardé droit dans les yeux longuement, et il nous a dit, faire si peu de chiffre d'affaires dans un tel merdier, c'est que vous devez être bon, donc je vais tous vous garder. Et ben voilà, Bernard Tapie, c'était ça, c'était un meneur d'hommes, c'était quelqu'un qui était capable de motiver les troupes. Vous rentriez dans son bureau avec le moral dans les chaussettes et vous ressortiez gonflé à bloc. Et ce que j'ai adoré dans Bernard Tapie, c'est le fait que tout était pour le client. On était à la disposition du client. On devait choyer les clients. À telle enseigne qu'un jour, il décide de nous dire... les gars, le chiffre remonte, mais c'est pas encore ça. Donc, ce qu'on va faire, vous allez me mettre sur papier vos 50 meilleurs clients distributeurs et on va tous les emmener prendre l'air. On les met dans un avion, on les emmène prendre l'air et vous allez voir, quand ils vont revenir, ils vont être regonflés à bloc et vous allez voir que les commandes vont tomber. Il a affrété l'avion. On a mis nos distributeurs, les 50 plus gros distributeurs clients avec leurs épouses dans l'avion. On est parti à Djerba. On n'a pas pu atterrir à Djerba parce qu'il y avait une tempête de sable épouvantable. Donc on est revenu sur la Tunisie. À l'époque, on était en octobre, fin octobre, tous les hôtels étaient fermés. Il a fait rouvrir un hôtel. On nous a couchés dans l'hôtel pour la nuit. Le lendemain matin, on reprenait l'avion pour aller à Djerba. Il a mis tout le monde sur des chameaux. Il nous a fait monter, crapahuter dans les dunes pour aller voir un coucher de soleil. Et arrivé en haut de la dune, il y avait des tables blanches immaculées qui étaient dressées pour nous servir à boire. Je peux vous dire qu'effectivement, les clients ont été remontés à bloc et que ça nous a grandement, grandement aidé.
Jean-Louis, restez avec nous parce que ça va être le flash et il y a Jean-Alphonse Richard. Votre témoignage est formidable. Je vous assure, de tout ce que j'ai entendu depuis hier, c'est quelque chose de différent et c'est vraiment formidable parce que vous avez travaillé avec lui et vous étiez un commercial, j'ai envie de dire, comme il y en a eu tant dans ces entreprises. Donc surtout, vous restez avec nous. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime à 14h30 et ce sera consacré...
Un petit mot de crime, je vais parler de François Vérov, alias le
Grêlé.
Ah, le Grêlé.
Oui, le Grêlé.
On parle que de lui en ce moment.
Ah oui, le Grêlé. Revient sur sa trajectoire.
Mais il était vraiment Grêlé.
Avec cette enquête. Ah ben là, il y a des témoignages qui diffèrent. Il y en a qui... tout premier témoignage parle d'une peau abîmée, etc. D'où son surnom le Grêlé. Puis ensuite, ça va évoluer et on va s'apercevoir qu'effectivement, il avait sans doute quelques défauts de complexion, de peau. On va surtout s'attacher à savoir s'il y a d'autres victimes du Grêlé.
On est sûr que c'est lui. Il n'y a pas.
Certains. Voilà. Certains. L'ADN
celui
a parlé.
Qui a violé,
la lettre.
C'est celui
la lettre,
qui s'est suicidé.
Exactement.
L'autre jour.
La lettre également a parlé. Donc ça concorde, c'est fait. Par contre, ce qu'il va falloir maintenant déterminer, c'est savoir s'il y a d'autres victimes. Là, les policiers de la crime vont continuer à enquêter. Et puis, pour une question aussi qu'on va poser dans cette émission lors du crime, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas identifié avant, alors qu'il y avait cette histoire d'uniforme qui traînait partout? On savait que c'était peut-être un militaire, un gendarme, un policier. Est-ce que le travail a été fait? On en parle dans l'heure du crime, 14h30.
Pardonnez-moi.
À vos souhaits.
C'est la climatisation qui me joue des tours. J'ai rencontré Geneviève Delpech, l'épouse de Michel Delpech, qui est médium. Eh bien, elle m'a dit que M. Dupont de Ligonnès se serait suicidé dans une tombe.
Oui, c'est une,
dans une tombe.
C'est une histoire qui court depuis longtemps. mais encore une fois, Pascal Pro, il faut que quelqu'un ferme la tombe.
Oui, mais c'est ce qu'elle m'a dit.
Voilà, et il faut que quelqu'un ferme la tombe. Donc ça veut dire qu'il y a un complice.
J'ai rencontré mon cousin la semaine dernière, pourquoi lui-même hypnotiseur, qui me disait
Fréquentez...
Mais qu'est-ce que vous racontez
vous fréquentez beaucoup trop les marabouts, mais arrêtez.
Marabouts de ficelle, celle de cheval. Non, mais elle a écrit. Je vous soumets cette information, les médiums.
Ma religion n'est pas faite là-dessus, mais c'est une histoire qui court, effectivement.
13h, vous allez, ne vous moquez pas, monsieur Sini.
La police devrait consulter les médiums plus
souvent. De suite.
Ouais. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h01. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Bonjour à tous, et les orages de retour cet après-midi dans le sud-est, épisode particulièrement intense dans les Bouches-du-Rhône où il a déjà beaucoup plu cette nuit et ce matin, l'équivalent de 3 mois de précipitations en seulement quelques heures dans l'est du département en alerte rouge. Comme dans le Var et les Alpes-Maritimes, les écoles y sont désormais fermées, les habitants priés de rester chez eux. C'est une conséquence du décès de Bernard Tapie. La cour d'appel reporte sa décision dans l'affaire de l'arbitrage. Elle devait se prononcer mercredi. Dans ce dossier, rappelons-le, l'homme d'affaires était soupçonné d'avoir manipulé au détriment de l'État un arbitrage de 2008. 403 millions d'euros lui avaient été alors adjugés pour solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. Il avait été condamné à rembourser cette somme, mais relaxé sur le plan pénal en première instance. La cour d'appel constatera, comme il est d'usage, l'extinction de l'action publique à son encontre. La messe funéraire à Paris pour Bernard Tapie, justement, sera célébrée mercredi matin à 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés. Ses obsèques, elles, auront lieu vendredi matin à Marseille, dans la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Après son transfert avorté cet été vers le Real Madrid, Kylian Mbappé contre-attaque. J'ai dit fin juillet que je voulais partir, assure l'attaquant star du PSG dans un entretien à nos confrères de RMC Sport. Réponse à ceux qui l'accusent d'avoir prévenu ses dirigeants au dernier moment. Je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité, ajoute-t-il. L'ancien monégasque assure être toujours heureux à Paris, mais il n'a pas prolongé son contrat pour le moment, laissant craindre un départ libre l'été prochain. Et puis beaucoup donné gagnant, ceux qui ont mis au point les vaccins anti-Covid ARN messager. Ce sont finalement 2 Américains qui ont reçu le prix Nobel de médecine tout à l'heure pour leur découverte, je cite, révolutionnaire sur le système nerveux, sur la façon dont il ressent la température et le toucher grâce à des récepteurs. La météo.com. Et ce sera plus calme dans le sud-est. C'est partout ailleurs que le temps va se dégrader en raison d'une nouvelle perturbation pluvieuse. Elle va arriver cette nuit par la Bretagne et balayer le pays d'ouest en est. Avec elle, des vents forts jusqu'à 90 km/h dans le nord. Côté température, demain après-midi, on aura 16 à 19 dans la moitié nord, 19 à 21 dans la moitié sud, jusqu'à 25 degrés en Corse. La course du Quintet, c'était à Enghien-Soisy cet après-midi. Je vous donne l'arrivée provisoire le 9, le 7, le 13, le 4 et le 10. RTL, 14h04. La suite des auditeurs ont la parole. C'est avec vous, Pascal Pro.
Merci, Sébastien.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Cyprien Sini va rester encore quelques secondes avec nous. On était avec Jean-Louis. Donc Jean-Louis, vous étiez commercial chez Testu. Vous nous racontez la reprise avec Bernard Tapie. Il vous reçoit 2 fois, avenue de Friedland. Il vous emmène à Djerba. Il va rester combien de temps à la tête de Testu?
Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, c'est 83-88. Ça doit être à peu près ça, ouais.
Et vous allez vous-même rester combien de temps dans l'entreprise avec lui?
Ben, moi, j'ai quitté cette entreprise en 96, hein, donc je suis resté au-delà de son départ. C'est une entreprise qui a sorti la tête de l'eau et qui a poursuivi son bonhomme de chemin jusque dans les années 97-98 où de nouveau il y a eu des pots de bilan.
Et le commercial que vous êtes, évidemment, la force de vente, parce que ça c'est important, elle rencontrait régulièrement Bernard Tapie malgré toutes ses activités qu'il pouvait avoir?
Ah oui, c'est-à-dire que Bernard Tapie, c'est le commerce avant tout. C'est le nerf de la guerre. Pour finir mon histoire tout à l'heure, quand on repart de Djerba avec tous nos clients, Bernard Tapie, qui aurait pu rester à l'avant de l'avion, à
avec sa femme qui était avec nous, Bernard Tapie a pris la peine de remonter tout l'avion, de faire siège par siège pour pouvoir discuter, dire un mot gentil à chacun de nos clients et leur expliquer au combien c'était important de continuer à nous soutenir en nous passant des commandes. Et encore une fois, les résultats après cette opération avaient été très bons. Quoi.
Et le commercial bon, que vous êtes, évidemment, ouais. C'est un super vendeur. Vous regardiez ça en apprenant encore peut-être des ou en retenant encore des choses, si tant est qu'on puisse apprendre et retenir lorsqu'on est commercial après 20 ou 25 ans d'exercice.
Ouais, mais moi, vous savez, j'étais jeune commercial. Hein, j'avais 28 ans à l'époque, à peu près, et donc on était en admiration devant le personnage, quoi. Tellement ça paraissait facile, que ça soit les prises de parole, que ça soit les contacts avec les clients, que ça soit son parcours dans le rachat de toutes ces entreprises telles qu'il l'a fait. En tant que commercial, on était évidemment tous très admiratifs du personnage. Et oui, j'ai évidemment beaucoup appris à son contact, même si on ne le voyait pas très souvent. Mais le peu de fois qu'on le voyait, on en tirait toujours quelque chose. L'exemple de dire qu'il avait salué tous nos clients dans l'avion du retour. Un jour, on lui avait demandé pourquoi il ne l'avait pas fait à l'aller pour se présenter. Et donc Bernard Tapie nous avait répondu, c'est la dernière image qui reste. Et c'est celle-là qui est importante. Quand vous donnez votre carte de visite lors d'un entretien, vous la donnez jamais en arrivant chez le client. Vous la donnez en partant. Parce que ça restera beaucoup plus imprimé dans la mémoire de votre client que de la donner en début d'entretien où votre client va la mettre dans le tiroir et c'est fini. Bon voilà, donc bon, c'est ça paraît être des détails.
Non, c'est pas des détails et c'est très intéressant ce que vous nous dites. Merci Jean-Louis, vraiment merci, je trouve votre témoignage. C'est la première fois que vous nous appeliez ?
C'est la première fois, je vous écoute tous les jours depuis que je suis à la retraite. Mais oui, c'est
un beau métier commercial, vous l'avez exercé combien de temps ?
Ah ben j'ai fait toute ma carrière dans la fonction commerciale.
Ouais. Donc d'abord c'est dur parce que plus personne ne veut être commercial, tout le monde préfère faire du marketing parce que t'es dans les bureaux et les pieds sur les bureaux à rien faire. T'es ce que commercial. Non mais quoi, j'exagère un peu.
J'embrasse nos auditeurs qui nous écoutent qui font du marketing.
Non mais commercial, faut aller au contact, faut y aller les commerciaux vendent. Moi je suis dans une famille où il y avait des commerciaux. Je peux vous dire que c'est 15 clients. Oui. Par jour, faut aller les voir, faut aller se battre.
Et ce qui a beaucoup changé, Pascal, c'est qu'il y avait une vraie relation client-fournisseur dans les années 80 qui a complètement disparu.
Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde passe par Internet, j'imagine. Voilà, donc les représentants sont zappés.
Et c'est au moins 10 ans. Et la première chose qu'un client fait quand vous lui donnez un devis aujourd'hui, c'est de regarder la dernière page pour savoir combien ça va lui coûter. Et il s'intéresse pas du tout au contenu. Donc à l'époque, on avait vraiment des argumentaires. On était entreprise française. On se battait pour défendre nos couleurs. On avait des bons produits. Bon, voilà, tout ça, c'était des choses qui étaient entendues par les clients.
Bien sûr.
C'est plus du tout le cas aujourd'hui, quoi.
Non, mais les représentants, c'était des seigneurs dans les années 70. Il y avait ce qu'on appelait des multicartes. Ouais, alors, ils avaient des secteurs qui, c'était la moitié de la France. Et ils se baladaient. Quand vous étiez, par exemple, représentant Adidas en 1970, le rapport de force était en votre faveur. Vous arriviez, chez le client et il était à genoux.
Ah, vous étiez le patron.
Il était à genoux pour que vous acceptiez de lui vendre vos chaussures.
C'était un monde.
Bah, aujourd'hui, c'est la guerre. Donc, c'est pour ça les anciens joueurs étaient parfois représentants à Adidas. Ils avaient des Mercedes qui changeaient tous les 6 mois. C'était des seigneurs. Je l'ai dit déjà. Il est 14h09.
Je vous écoute.
Cyprien Sini aime quand je parle du monde d'avant.
Oui, j'adore.
Et il va parler
c'est
de,
tellement rare.
Il va parler de Marseille. Mais non, mais c'est un métier formidable. Représentant, vous êtes sur la route tout le temps.
Je suis sûr que vous aurez été très bon dans ce métier, Pascal.
Je ne suis pas sûr. Parce que moi j'achète généralement au plus haut et je vends au.
Ok,
au
plus moi j'aurais été très mauvais.
Ouais, je ne suis pas très doué, je vous assure, pour la vente. Je ne suis pas terrible. 14h. Vous savez ce que faisait Jean-Claude Darmon Extraordinaire vendeur. Quand il arrivait, Jean-Claude Darmon, pour négocier un match de football.
Il achetait les matchs de de football, lui. Il vendait. Bah,
oui,
il achetait, bah, vendait match de football.
Il achetait les droits d'un match de foot.
Auditeurs, ouais.
Il arrivait, par exemple, à Prague, le match était retransmis un mercredi. Il arrivait le lundi soir et TF1 n'avait toujours pas les droits. C'était 24 heures ou 48 heures avant le match. Il arrivait avec celui qui était détenteur de droits et le type lui disait invariablement, le match est à 5 millions de francs ou 5 ou 6 millions de francs, je n'en sais rien. Et la première phrase que disait Jean-Claude Darmon, c'est « Où voulez-vous que je les vole ?» Et là commençait la négociation. 14h10.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est né à la clinique de la Conception à Marseille, oui. L'a bien nommé, et c'est Cyprien Sini qui est le Marseillais fidèle à sa ville.
Et
c'est
oui. Vrai que... J'étais encore ce week-end.
Bon, vous nous disiez tout à l'heure, vous rentrez dans le stade. Bon, vous rentrez dans le stade, vous avez 12 ans, 13 ans, et vous êtes en présidentielle. Et qu'est-ce qui se passe en présidentielle? Vous êtes sous Bernard Tapie.
Mais en fait, la tribune était située, tribune Jean-Bouin, présidentielle, juste en dessous de la loge de Bernard Tapie. Et donc à tous les matchs, mais vraiment à tous les matchs, hein, je me souviens même le jour de la mort de Bérégovoy, il est venu au match, alors que c'était son ami proche, etc. Il est au stade, et donc il est assis, il a les bras sur la rambarde du balcon, en fait, de la loge, et il regarde le match de façon impassible, il ne bouge pas. Et dans la tribune, ce qui est affolant, c'est que les gens regardent le match, mais dès qu'il y a une action, dès qu'il se passe quelque chose, ils se tournent immédiatement pour regarder la réaction de Tapie, qui lui reste impassible tout le match. Mmh. Et parfois, quand ça se passe pas bien, à la mi-temps, on le voit se lever et il descend dans les vestiaires. Et là, c'est le secret du vestiaire, mais je pense qu'il passe un savon aux joueurs à la mi-temps.
Donc vous êtes de 1980 ?
Je suis né en 1980. Ouais.
Donc vous avez 13 ans en 93, ouais. Et le soir de la victoire de la Ligue des Champions, c'est tout Marseille qui est dehors et qui va faire une fête pendant trois jours.
C'est incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire que le lendemain, à l'école, j'étais en quatrième ou en troisième, je ne sais plus. J'étais en quatrième, à l'école, tout le monde avait la Provence, tout le monde avait des écharpes de l'OM, et on va tous à l'école comme ça. Mais ça va du surveillant au prof, enfin tout le monde était dans cet état-là. C'était hallucinant. Et donc après, pendant trois jours, ça a suivi, c'était la fête, et après il y a eu le match du PSG.
Il n'y a pas de Marseillais qui n'aiment pas le football, ça n'existe pas. Y a
à
pas
cette
de
époque-là, en fait, tout le monde est obligé d'être impliqué un minimum. C'est-à-dire que même si ça vous plaît pas, vous savez qu'il y a match, vous savez, parce qu'il y avait les matchs de Coupe d'Europe le mercredi. Cette ville, elle est bercée quand même par le foot. C'est-à-dire que ma mère, elle aime pas le foot, mais elle sait quand il y a un match ou pas, parce qu'elle sait que mon père, il va regarder le match.
Vous mais vous jouiez quand vous étiez enfant?
Ah non, j'allais au match, moi. Moi, j'allais à tous les matchs.
Mais pourquoi vous jouez pas à ce moment-là?
Parce que je faisais d'autres choses.
Vous faisiez quoi comme sport?
Mais enfin, je faisais du tennis, du golf.
Ah ouais, donc vous étiez un golf
non,
de bourgeois.
Mais je jouais
pas
je joue au golf pour jouer au foot parce qu'il y avait un terrain de foot au golf.
Bon, Cyprien, j'adore vraiment quand vous parlez de Marseille. Albert est là, qui est commercial également, Albert ?
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour, donc vous avez dû écouter notre petite notre dialogue avec Jean-Louis.
Testu, là, je suis très ému, quoi.
Ouais. Pourquoi vous êtes très ému ?
Ben parce que ça me rappelle mes années. Moi, j'ai 70 ans et j'ai connu les 30 glorieuses. Alors moi, mon domaine, c'était le luminaire. Mmh. Et j'ai créé avec l'entreprise qui m'embauchait, on a implanté tous les euromarchés de Paris. Après, j'ai changé de société, c'était tous les carrefours de la région parisienne.
Mais ça n'a pas de rapport avec Bernard
Tapie. Et puis après, j'ai atterri à Nantes et on a fait tous les Leclerc de Nantes. Et ma grande fierté, c'est de dire que j'ai changé 4 fois de société, mais je suis toujours resté 17 ans exclusif à Leclerc Landerneau.
Je suis d'accord avec vous, mais ça n'a pas de rapport avec Bernard Tapie.
On en fait aussi, parce que c'était sponsor c'est des matchs de Canal.
Et ce que je voulais vous dire, c'est que Bernard Tapie avait créé des écoles de vendeurs. Et les vendeurs, moi j'ai fait des stages, réponses aux objections et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et quand on rentre par la... Quand on est refoulé par la porte, on rentre par la fenêtre, mais un bon vendeur...
Mais est-ce que ça s'apprend d'être vendeur? J'ai l'impression que c'est une nature, moi, d'être vendeur.
Ben non, j'étais pas fait pour ça. Moi, j'avais fait un CAP d'ajusteur au départ, et puis j'ai atterri dans le luminaire et j'ai fait toute ma vie comme ça.
Et vous étiez un bon vendeur ?
Ah bah. À qui le dites-vous ?
Non mais je sais pas.
Mes concurrents m'aimaient pas.
C'est vrai ?
Ah, c'est qu'il était bon. Ah, oui, mais... mais Tapie n'avait pas fait d'école de vente non plus, hein.
Non, Tapie, c'est pour ça que je vous dis...
On avait des formations de stage de vente à la société, oui.
C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose de l'ordre de la nature, quand même, lorsqu'on est un vendeur, forcément.
Oui, peut-être.
Il faut avoir, j'imagine, du bagou, comme on dit.
Non, 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 le bagou, c'est les produits, les prix et le dynamisme et respecter les délais de livraison. Et puis, il y a peut-être quand même le... Enfin,
faut être sympathique pour être vendeur. Faut être sympathique. Faut que les gens vous aiment un peu.
Il passe partout, quoi.
Vous aviez un physique qui passe partout, Albert.
Ben moi, j'ai pas eu à me plaindre.
Ah oui, parce que les vendeurs vendent. Bon.
Il sait se vendre aussi, Albert.
Mais bien sûr, bien sûr. Ben écoutez, merci. Et quel souvenir vous garderez de Bernard Tapie, Albert ?
Eh bien, d'abord, j'en profite pour présenter mes condoléances à sa famille. Je trouve que c'est scandaleux de voir des gens qu'il critique alors qu'il n'est même pas enterré. Et le souvenir que j'en garderai, ben, c'était un homme exceptionnel, tout simplement. Il n'y en aura qu'un sur Terre. C'était l'homme aux mille facettes, et j'ai regardé l'émission sur LCI hier, et c'était très émouvant, quoi.
Il y a un capital sympathie, quand même, par rapport à Bernard Tapie, qui veut dire beaucoup de choses, quand même. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il a pu faire, où il a souvent eu des problèmes avec la justice, etc., etc., il y a quand même, il se dégage de tout ce qu'on retient, ou tout ce qu'on entend depuis plusieurs jours, ce capital sympathie. Parce qu'il savait faire, parce qu'il savait parler, et parce qu'il y a quelque chose qu'il parce avait que les autres n'ont pas.
Quoi. C'est un bon gosse.
Oui, alors, et puis il y a quelque chose d'humain.
C'est-à-dire que même si vous ne l'aimez pas, vous finissez par le trouver sympathique. Quoi.
Et parce qu'il l'est.
Oui, sûrement.
Il l'est. Il est 14h18. Bah, puisque vous êtes là, vous allez rester jusqu'au bout. Bah, ça vous apprendra. À tout de suite.
Un plaisir.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Émission spéciale Bernard Tapie ce soir à 20h avec Flavie Flamand qui recevra Franz-Olivier Gisbert entre 20h et 21h dans son émission Jour J.
Et alors, j'aimerais bien, Pascal, parce que vous m'avez raconté quelque chose hors antenne qui est formidable, une anecdote sur Bernard Tapie que vous avez, vous, parce que vous nous faites parler depuis le début, mais vous en avez plein d'anecdotes.
Mais je l'ai raconté 50 000 fois, la première fois où je suis allé à l'hôtel des Saint-Pères. Je ne sais pas si c'était en 89 ou en 90, j'étais jeune journaliste, pareil. Et là, je vais l'interviewer un peu plus longuement, sans doute pour Téléfoot. Et j'entre dans l'hôtel des Saint-Pères, j'étais un peu impressionné, qui est sublime. Hein. L'hôtel des Saint-Pierre, c'est à 200 mètres à vol d'oiseau du Flore, c'est sublime, c'est un ministère. Bon. Et j'entre et Tapie me dit « Est-ce que tu connais un peu en antiquité ?» Alors, je dis « Non, monsieur Tapie, je ne connais pas grand-chose en antiquité. » Et là, il me dit « Ça, c'est la commode du régent. Ça vaut deux papins, mon pote. »
Il parlait en papin.
La commode du régent, c'est quasiment un dialogue
Audiard.
C'est un dialogue des guignols, mais bon, je l'ai raconté 50 000 fois. Après, il m'appelait Petite Lunette. Parce que j'ai des petites lunettes, donc il m'appelait Petite Lunette. Et donc, dans toute la rédac à TF1, on m'appelait Petite Lunette pendant 2 ans, parce que j'avais des petites lunettes. Et un des grands trucs de Tapie, c'est de ne jamais dire le nom de quelqu'un, par exemple, qui a dit du mal de lui. Alors, il t'appelle, il dit « Comment s'appelle le journaliste ?» Alors, c'est un type immensément connu, il n'y a même pas d'hésitation, tout le monde le connaît.
Et il ne veut pas prononcer son
nom. Non, il ne prononce pas son nom. Ouais. Donc, il dit « Mais comment il s'appelle celui-là, le blond, là, à TF1 ?» qui présente les émissions, c'était Roger Zabel, par exemple, que tout le monde connaissait. Donc ça, c'était du Tapie pur suc. Il m'appelait dans mes salles de montage. Après un Strasbourg-Marseille, je me souviens encore, l'arbitre s'appelait Monsieur Lartigot.
Un
Strasbourg-Marseille un soir, c'était un vendredi soir, forcément, parce que j'étais en montage le samedi après-midi, ce qui était assez rare, les matchs étaient le samedi généralement. Donc je suis en montage et Lartigot, il avait distribué des cartons jaunes à tout le monde, notamment à Eric Dimeco, etc. Il m'appelle dans ma salle de montage. T'as 26, 27, 28 ans. Il est en train de t'expliquer qu'évidemment, il n'y avait pas pénalty, etc. Bon. Donc voilà, mais tous les journalistes ont ces relations avec lui. Et ça crée un vrai lien de tendresse, puisque c'est une époque qu'on a adorée. Je ne peux pas dire autre chose. Vraiment, ce football, on l'a adoré. Donc cette période de Marseille. Donc je suis content pour vous qu'étiez un jeune. En revanche, je suis en train de prendre du retard parce qu'il est 14h24 et l'ami Laurent Tessier bavard et je m'excuse auprès de Béatrice et Francisco qui nous attendaient puisque c'est l'heure du débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
J'aurais voulu être un artiste.
L'homme aux mille vies éternelles battant une saga lui tout seul. L'homme qui osait tout, à jamais le boss, Bernard Tapie, nous a quitté hier à l'âge de 78 ans. Jean-Louis l'a très bien connu.
Je travaillais chez Testu dans les années 80. Et donc en 83, on nous a annoncé que c'était Bernard Tapie le repreneur. Et à l'époque, Bernard Tapie, 83, bah, personne ne connaissait. Un jour, il a convoqué tout le service commercial de l'entreprise dans son bureau à Mutrier de Landres. Donc on était à peu près une vingtaine. Il a fermé la porte, il est allé s'asseoir à son bureau, il nous a regardé droit dans les yeux, ça a duré un long moment, et il nous a dit « mais autant de monde pour faire si peu de chiffre d'affaires ».
Mais 15 jours plus tard, Bernard Tapie est revenu à la charge, tout le monde est convoqué une nouvelle fois.
Il a fermé la porte de son bureau, il est allé s'asseoir à son bureau, il nous a regardé droit dans les yeux longuement, et il nous a dit « faire si peu de chiffre d'affaires dans un tel merdier, c'est que vous devez être bon, donc je vais tous vous garder ».
Quel souvenir garderez-vous de Bernard Tapie ? Pour les supporters de l'OM, un événement vient forcément à l'esprit. 26 mai 93, Sarah avait 7 ans.
Étant évidemment fan de foot, la Ligue des Champions en 93 avec Marseille, inoubliable, indescriptible, la joie.
Vous étiez donc, dans votre poste jusqu'à 23h à 7 ans.
Ouais, mais pour une Ligue des Champions, on reste devant le poste.
Et oui, notre camarade Cyprien Signy, grand supporter de l'OM, est venu nous voir. Bernard Tapie a aussi changé sa vie.
Être enfant à Marseille dans les années 90, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que déjà, il y avait une politique pour aller au stade, les enfants ne payaient pas. Quand vous étiez accompagné d'un adulte, vous ne payiez pas. Donc on allait au stade tous les samedis, c'était extraordinaire. Et on voyait cette équipe flamboyante, ce stade, cette ambiance. Et ça, on le devait à Bernard Tapie. Et on en était tous conscients, il était omniprésent. C'est un truc qu'on n'oublie jamais et qui vous reste tout au long de la vie.
Un jeune journaliste l'a rencontré en 1989, un certain Pascal Praud. Vous veniez d'arriver à TF1.
J'ai 25 ans et franchement, j'en mène pas large. Et nous sonnons, c'est lui qui ouvre, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'était ses bureaux de l'avenue Trudeland. C'est lui qui ouvre, il serre la main du caméraman, il serre la main de l'éclairagiste, il serre la main du preneur de son et il me regarde et il me dit « Il est prêt au berceau maintenant à TF1 ?»
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Le mot de la fin à Bernard Tapie.
Cherchez pas à réussir dans la vie, mais battez-vous pour réussir votre vie. C'est plus important. Réussir sa vie,
c'est vivre. Chanson de Barbe Livien, paroles et chansons, et paroles et musique. Et une superbe voix, c'est ça qui est une voix de chanteur professionnel.
Vrai chanteur, crooner.
Un peu comme vous, Jean-Alphonse,
oui, c'est ce
cette
qu'on
voix.
Me dit souvent, ouais.
Oui, ouais, bah, cette voix magnifique que vous avez. Donc le grêlé.
Cette voix
aujourd'hui.
Que vous parlez aujourd'hui du grêlé, oui. François Vérove, sa trajectoire. Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté avant, cette ombre qui portait un uniforme, peut-être un uniforme de militaire, de gendarme, on ne sait pas en tout cas. Le fait est que c'est bien lui le grêlé. On revient sur cette histoire.
À 14h30, rendez-vous demain. Merci.
RTL. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.